France Inter.
Céline Asselot pour le journal. Bonsoir Céline.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Faut-il y voir un tournant dans la justice climatique? La première d'une série d'actions où des citoyens demanderont des comptes à leurs États. La Cour européenne des droits de l'homme vient de condamner la Suisse pour inaction climatique à la demande d'un collectif de femmes. On prend la direction de Genève au début de ce journal. On ira aussi en Russie où ce jugement résonne, car le pays fait face à ses pires inondations depuis plusieurs décennies, la faute notamment à une hausse brutale des températures. Nous dira notre envoyé spécial dans le sud du pays. Et puis on verra qu'en France, un nouvel outil permet de repérer les routes et les ponts vulnérables aux aléas climatiques. L'idée bien sûr est de pousser les acteurs locaux à faire les travaux nécessaires. Au programme également ce soir, la sécurité est renforcée à Paris. Avec drones et unités antiterroristes, cela fait suite à des menaces de l'État islamique sur la Ligue des Champions, même si la France, on le verra, n'est pas spécifiquement visée. On parlera des Américains de retour au Festival de Cannes. George Lucas recevra une palme d'or et de cette étude aux résultats frappants, les jeunes Français passent 10 fois plus de temps devant un écran qu'avec un livre dans les mains. Et puis à quoi pourrait servir la nouvelle réforme de l'assurance chômage? C'est le thème du téléphone sonne ce soir. Vos questions, vos témoignages, 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est une publicité dont la Suisse serait sans doute bien passée, devenir le premier État du continent officiellement condamné pour inaction climatique. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a rendu sa décision tout à l'heure. Alors la CEDH avait été saisie par des citoyens de plusieurs pays, un groupe de jeunes portugais, un ancien maire français, qui ont été déboutés. En revanche, elle a estimé légitime la réclamation d'un collectif de femmes suisses, les Aînés pour le climat, qui reprochent à leur gouvernement de ne pas faire assez contre le changement climatique. Et c'est vrai, Jérémy Lange, vous êtes à Genève, que la Suisse est un petit pays, certes, mais qui proportionnellement pollue beaucoup.
Côté face, la Suisse, c'est une électricité en grande partie décarbonée grâce aux barrages hydrauliques. Un taux de recyclage exemplaire pour le verre, l'aluminium, une loi sur le climat largement adoptée par référendum l'an passé. Côté pile, la Suisse, c'est aussi un pouvoir d'achat important qui n'incite pas à la sobriété. Poids des voitures, nombre de kilomètres parcourus en avion, volume des déchets, les Suisses caracolent en tête des classements les moins reluisants pour le climat. La Suisse est aussi l'une des premières pour financer des projets de compensation carbone à l'étranger, explique Augustin Franière. Il est chercheur au Centre interdisciplinaire de durabilité de l'Université de Lausanne. Sauf que décarboner là-bas, ce n'est pas vraiment pareil que de décarboner ici.
Si les compensations sont présentées comme un effort supplémentaire, à la rigueur, ça pourrait passer. Mais quand elles sont présentées comme participant à la réduction des émissions territoriales, là, clairement, à mon avis, c'est un abus de langage. C'est non seulement contre-productif, mais c'est une manière de gonfler un peu artificiellement les progrès qui sont réalisés.
Dernier chiffre pour bien comprendre l'impact environnemental de la Suisse. Sur le papier, le pays, c'est 0,1% des émissions mondiales. Mais si on ajoute le poids de la puissante place financière, la Suisse devient alors responsable de 3% des émissions de gaz à effet de serre. À Genève, Jérémy Lange et RFI pour France Inter.
La Suisse a donc l'obligation de respecter cet arrêt de la CEDH et de redoubler d'efforts pour lutter contre le changement climatique. Au grand dam du premier parti du pays, l'UDC, qui dénonce une décision injuste et scandaleuse. Et puis surtout, cela pourrait faire jurisprudence, ouvrir la voie à d'autres recours, car c'est un jugement dense, précis. Se félicite Raphaël Mahin, c'est l'un des avocats de l'association suisse, au micro de Rémi Brancato.
On fait le lien entre protection de la santé, droits humains, et dérèglement climatique, et mesures insuffisantes, carences, inaction climatique des États. On parle d'un jugement qui fait 300 pages, on en a à peine pris connaissance, mais ce qu'on a quand même pu voir dans le cœur du raisonnement, c'est que la Cour a pris le soin de développer ce qu'on pourrait appeler une espèce de liste d'exigences qui s'adresse aux États. Voilà ce qu'un État doit faire pour pouvoir prétendre respecter ses obligations climatiques. Et là, la Cour dit que les États doivent se doter d'un budget carbone, donc un outil précis de suivi, de monitoring, de comptabilité carbone, et que si les États ne le font pas, alors ça peut constituer une violation de leurs obligations en matière climatique. Et pour la Suisse, en l'occurrence, ça a été reconnu comme étant insuffisant. Du moment où la Cour rend un arrêt, elle pose sa jurisprudence, et ce précédent est directement applicable dans n'importe quel tribunal, de n'importe quel échelon, de n'importe quel pays du Conseil de l'Europe. Ça veut dire qu'un tribunal de première instance dans un État d'Europe de l'Est pourrait être amené à appliquer la même jurisprudence que le jugement de la Cour aujourd'hui.
Et rappelons que le Conseil de l'Europe compte au total 46 États membres. Ce n'est donc que le début, dit la militante Greta Thunberg, qui avait fait le déplacement à Strasbourg, où siège la CEDH, pour l'annonce de cette décision. Et puisque l'on parle du changement climatique, des événements extrêmes qui se multiplient. Arrêtons-nous maintenant sur la situation en Russie qui fait face à des inondations records du jamais vu depuis 80 ans. Le niveau de l'Oural est au plus haut. 90 000 personnes ont dû être évacuées ces derniers jours au sud du pays, notamment dans la région d'Orenbourg où vous vous trouvez. Bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir Céline.
Le pic est attendu demain et la météo a été marquée par une pluie très importante, associée à une remontée brutale des températures.
Oui, ce qu'un habitant d'Orenbourg m'a dit tout à l'heure, c'est simple, on est passé du gros manteau d'hiver au t-shirt en 3 jours. Du coup, la neige a fondu à vitesse grand V, les glaces sur les fleuves ont cédé tout aussi rapidement et ce phénomène a donc provoqué ces crues historiques, notamment ici sur la rivière Oural qui vient d'atteindre 9 mètres à Orenbourg à 46 centimètres de son record historique et ça monte encore alors que des quartiers entiers de datchas, hein, ces maisons individuelles, sont déjà sous l'eau. Les habitants y passent grâce à quelques bateaux pneumatiques ou quelques camions capable de franchir les eaux, mais d'autres habitants dénoncent le manque de moyens ou de préparation, notamment dans l'entretien des digues, dont les ruptures ont aggravé les conséquences de ces inondations, notamment à Orsk, à 250 km à l'est d'ici, où l'eau a carrément atteint le toit des maisons à deux niveaux. Le ministre des situations d'urgence, Alexandre Korenkov, qui est sur place, leur a répondu, cinglant, c'est aux habitants d'évacuer eux-mêmes, a-t-il dit. Ils sont prévenus depuis une semaine, ils ont cru que c'était une blague, mais ce n'en est pas une. Pourtant, ici, clairement, personne n'a le cœur à plaisanter.
Merci Sylvain Tronchet depuis Orenbourg, au sud de la Russie pour France Inter.
Et la Russie poursuit par ailleurs ses attaques de drones contre l'Ukraine.
Oui, l'armée ukrainienne en a neutralisé une vingtaine la nuit dernière, mais pour y faire face, il faudrait davantage de systèmes de défense anti-aérien. Les alliés doivent en envoyer plus à l'Ukraine. C'est ce que dit le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. L'Ukraine attend toujours par ailleurs la nouvelle aide américaine bloquée au Congrès. Alors, comme lot de consolation, la Maison-Blanche a décidé d'envoyer à Kiev les armes saisies aux rebelles houthis du Yémen. Précision depuis Washington de Sébastien Paour.
Le dernier envoi remonte à jeudi dernier. Plus de 5000 fusils d'assaut AK-47, des mitraillettes, des fusils de précision, des lance-grenades et plus de 500 000 cartouches. C'est le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient qui fait le détail. Il assure que ça représente assez de matériel pour armer une brigade ukrainienne en petit calibre. Le Pentagone précise aussi que c'est le deuxième envoi de ce type après un premier en octobre. 1 100 000 cartouches saisies comme les armes sur 4 bateaux entre mai 2021 et février 2023. Des cargaisons qui étaient transférées par les gardiens de la révolution iranienne aux Houthis du Yémen alors que c'est interdit par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. De quoi aider un peu l'armée ukrainienne dans sa guerre contre la Russie alors qu'elle manque surtout d'obus et de missiles. Mais les 60 milliards de dollars d'aide économique et militaire à l'Ukraine prévus par la Maison-Blanche sont bloqués ici au Congrès par les élus républicains pro-Trump. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
De son côté, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, assure qu'une offre très sérieuse de cesser le feu a été présentée au Hamas. 2 jours après l'ouverture de nouveaux pourparlers au Caire, le secrétaire d'État qui semble douter d'une offensive israélienne imminente à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirmait pourtant hier que la date était maintenant fixée.
Et dans l'actualité ce soir également, l'État islamique qui profère des menaces contre la Ligue des Champions.
Oui, menaces prise très au sérieux après l'attentat de Moscou et avant les Jeux Olympiques, même si cela ne cible pas la France en particulier. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Demain, le Parc des Princes accueillera le quart de finale aller de la Ligue des Champions entre le PSG et le Barça. Et Gérald Darmanin annonce donc un renforcement considérable de la sécurité.
Oui, c'est un message diffusé par le média du groupe État islamique qui est repéré hier sur Internet par les services de renseignement français. Une affiche en forme de cible avec les 4 noms des stades concernés en Europe par ces quarts de finale de la Ligue des Champions, dont le Parc des Princes à Paris, donc un appel à passer à l'acte, ce qui est le moteur de la propagande de l'organisation terroriste, comme il y a 10 jours pour ce qui concerne le football, ce qu'a rappelé ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui présentait les mesures de sécurité à venir pour les Jeux Olympiques.
Nous avons vu, parmi les autres, une communication de l'État islamique, en effet, qui vise particulièrement les stades. Elle n'est pas nouvelle. Je rappelle qu'il y a à peine 10 jours, l'État islamique a déjà évoqué, en mettant un stade, en l'occurrence le stade de Munich, en fond d'écran pour dire qu'il fallait passer à l'acte dans les lieux sportifs et singulièrement les stades. Et la DGSI est particulièrement à pied d'œuvre sans rentrer dans le détail, pour évidemment être au rendez-vous d'un renseignement préventif, s'il le faudrait, curatif.
Il y aura donc demain soir près d'une dizaine de compagnies de CRS ainsi que des unités de la BRI parisienne, la brigade de recherche et d'intervention aux abords du Stade de France, qui veut dire plus de patrouilles en amont pour détecter des colis, des personnes suspectes, ce qui viendra également s'ajouter au dispositif déjà prévu de quadrillage de la zone par des drones.
Merci Emmanuel Leclerc, service police-justice de France Inter. Les autorités espagnoles aussi annoncent un renforcement de la sécurité puisque c'est Madrid qui accueille le match du jour très attendu entre le Real et Manchester City, les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. Coup d'envoi tout à l'heure à 21h. Lui promet des mesures extrêmement fortes pour lutter contre la violence entre jeunes. Gabriel Attal assure qu'il faut un sursaut pour la sécurité, l'ordre et le respect de l'autorité. Annonce qui fait suite à la mort de Chemseddine à Viry-Châtillon. Les obsèques de l'adolescente tabassée à la sortie de son collège ont eu lieu aujourd'hui dans la commune de l'Essonne. Le droit de grève va-t-il être limité dans le secteur des transports? Le Sénat a adopté en première lecture une proposition de loi issue de l'UDI visant à limiter les grèves sur certaines périodes comme les vacances scolaires, les jours fériés ou les grands événements. Le gouvernement s'oppose à ce texte, ce qui risque de compliquer son inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. L'Assemblée qui valide de son côté la fusion entre l'ASN, le gendarme du nucléaire, et l'IRSN, l'expert technique du secteur. La réforme sera définitivement adopté si le Sénat donne son feu vert. La tempête Pierry qui est passée sur la France sans trop d'encombre. La vigilance orange a été levée partout cet après-midi. Pas de victimes, mais des dégâts matériels, notamment des terrasses emportées par les eaux dans la commune de Vimereux, dans le Pas-de-Calais. Et pour inciter les collectivités locales, les élus, à mieux protéger justement leurs infrastructures face aux aléas climatiques, eh bien la Fédération nationale des travaux publics vient de lancer une plateforme. Elle recense toutes les routes, les ponts, les stations d'épuration du pays et elle précise leur degré de vulnérabilité. Bonsoir Luc Chemelin.
Bonsoir.
Alors vous avez testé cette plateforme puisqu'elle est accessible à tous et qu'elle est gratuite. Ça s'appelle InfraClimat. Expliquez-nous concrètement comment ça fonctionne.
Eh bien, quand on arrive sur le site, une carte de France s'affiche. Il faut ensuite sélectionner une zone, une région, un département, une agglomération, puis une infrastructure, route, pont ou station d'épuration. Et enfin, obligation de choisir un type d'aléa climatique parmi les inondations, la sécheresse ou encore la chaleur extrême. Après avoir validé concrètement, on peut savoir en Loire-Atlantique par exemple combien de kilomètres de route et lesquels sont particulièrement menacés par les submersions marines. L'outil est donc très précis, comme l'explique Christine Lebrun du cabinet de conseil Waypoint et directrice de ce projet.
Vous avez un volet quantitatif avec des indicateurs qui vous dit dans votre zone, vous avez 14 stations d'épuration qui sont exposées à un risque d'inondation fort. Ça représente 400 000 habitants. Ça peut toucher 12 écoles.
Sur la plateforme, on trouve également des explications pour comprendre par exemple comment de fortes précipitations ou la sécheresse peuvent fragiliser les fondations d'un pont. Et s'ajoute une partie solution avec de la documentation et des conseils sur les travaux à faire pour protéger les infrastructures. Et en fait, c'est pour ça que ce site s'adresse particulièrement aux collectivités locales. L'objectif, créer une prise de conscience, estime Alain Grisot, président de la Fédération nationale des travaux publics.
Ça permet surtout de se dire, voilà, aujourd'hui, quelle action doit être portée et sur quoi.
Autrement dit, adapter son ouvrage aux aléas climatiques.
Si c'est par exemple un pont, il faut prévoir les plus fortes crues, donc dimensionner le passage de l'eau, peut-être le surélever.
Et Alain Grisot l'affirme, vu la situation actuelle, il est désormais impératif d'anticiper les futurs aléas.
Luc Chemelin, service économique et social de France Inter. Franchir les portiques du métro en présentant son iPhone plutôt que sa carte Navigo, cela devrait être possible dans le réseau francilien à partir de la fin du mois de mai, annonce Île-de-France Mobilité. Donc à temps pour les Jeux Olympiques, il aura fallu des années de discussion avec Apple pour parvenir à un accord. Et puisqu'on parle de nouvelles technologies, un nom est en train de s'imposer dans le milieu de la tech, celui de Sam Altman. C'est le cofondateur et le dirigeant de l'entreprise OpenAI, à qui l'on doit l'outil d'intelligence artificielle ChatGPT. Le voilà milliardaire selon le classement établi par le magazine Forbes. Et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, bonsoir Stéphane Jourdain.
Bonsoir Céline.
Cette fortune n'est pas due au succès de ChatGPT, mais à de nombreux investissements, car c'est avant tout un homme d'affaires très avisé.
Oui, c'est contre-intuitif, mais celui qui incarne ChatGPT dans le monde entier ne détient aucune part de la start-up, pourtant valorisée 80 milliards de dollars. Pourquoi ? Car à l'époque où la question se pose de prendre des parts, il y a 5 ans, OpenAI est un labo de recherche à but non lucratif qui ne génère aucun revenu, mais beaucoup de dépenses. Et Sam Altman est déjà assez riche pour ne pas demander d'action. L'homme d'affaires de 38 ans doit donc sa fortune précoce à la première start-up qu'il a fondée à 19 ans, Loopt, un réseau social qu'il a revendu 6 ans plus tard pour 40 millions de dollars. Avant même ses 30 ans, il a multiplié par 100 son investissement dans 5 sociétés, parmi lesquelles quelques startups devenues célèbres, Airbnb, Reddit ou Dropbox. L'entrepreneur à l'allure juvénile est donc un véritable requin de la tech qui a pour credo l'agressivité, un mot qu'il revendique.
Je pense que beaucoup d'entrepreneurs ne sont pas assez agressifs. Or, quand vous êtes entrepreneur, c'est juste vital de savoir ce qu'on veut et d'être agressif.
Toujours à la recherche du bon coup, l'homme d'affaires n'a pas de limite. Il a investi dans la fusion nucléaire ou dans une biotech cellulaire. Et son projet le plus fou, c'est WorldCoin, une crypto-monnaie qui repose sur le scan des iris de l'œil de tous les êtres humains de la planète.
Merci Stéphane Jourdain de la rédaction numérique de France Inter. Et cette belle fortune amassée est une preuve de plus, s'il en fallait, de la bonne santé du numérique, des réseaux sociaux, au détriment malheureusement des livres, en tout cas chez les plus jeunes. C'est ce que montre une étude publiée par le Centre National du Livre. Les Français âgés de 7 à 19 ans passent en moyenne 19 minutes à lire chaque jour contre 3 heures et 11 minutes devant les écrans. La pratique de la lecture s'effondre tout particulièrement chez les adolescents, les plus de 16 ans. Un tiers d'entre eux disent ne pas aimer lire et les réseaux sociaux prennent toute la place. Reportage de Boris Loumagne dans les rues de la capitale.
Devant cette librairie parisienne, les jeunes passent mais ne s'arrêtent pas. Clara, 15 ans, téléphone portable en main.
Avant, je lisais beaucoup durant ma jeunesse, mais depuis que j'ai un smartphone et que j'ai des écrans, ça a été vraiment le moment où j'ai abandonné tous mes romans pour passer mon temps sur les réseaux sociaux avant de dormir.
Et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ?
Je trouve que mon imagination, il y a eu un impact dessus, elle a été réduite. La lecture, ça m'aidait beaucoup à dormir, tandis que maintenant, les écrans, je trouve que ça repousse de plus en plus l'heure à laquelle je me couche.
Problème de sommeil, problème de concentration également. D'après l'étude, plus de 60% des jeunes interrogés se disent incapables de lire plus de 30 minutes d'affilée. Alors que faire pour que les enfants retrouvent le goût de la lecture ? Voici un conseil d'Adèle, elle est libraire jeunesse à Paris.
Alors moi, ce que j'ai tendance à proposer, c'est d'acheter 3 livres et de lui laisser la possibilité de commencer par l'un ou l'autre. Pas acheter obligatoirement un seul livre, il faut le lire obligatoirement. Donc ça peut être une possibilité aussi pour attraper le poisson.
Enfin, d'après cette libraire, si votre enfant ne lit que des mangas ou des BD, rien de grave. L'important, dit-elle, c'est de garder ce lien avec la lecture tout au long de la jeunesse.
Reportage signé Boris Loumagne. Lui a dû lire beaucoup au cours de sa vie et pas seulement des romans. Le physicien britannique Peter Higgs est mort à l'âge de 94 ans. Il avait reçu le prix Nobel de physique en 2013. Pour ses travaux sur le boson de Higgs, une particule élémentaire considérée comme la clé de voûte de la structure fondamentale de la matière, pour dire les choses de manière très simplifiée, bien évidemment. Et puis si je vous parle d'une galaxie très très lointaine, de sabres laser et de côté obscur, vous aurez forcément reconnu la saga Star Wars et son créateur George Lucas. Mais oui, bien sûr, qui recevra une palme d'or en clôture du prochain Festival de Cannes. Bonsoir Corinne Pellissier.
Bonsoir.
Vous en avez entendu parler de George Lucas. C'est le festival qu'il annonce ce soir pour nous faire patienter, hein, puisque jeudi, on connaîtra l'ensemble de la sélection. On saura alors si Francis Ford Coppola montera lui aussi les marches avec Megalopolis, son nouveau film. En tout cas, Corinne, on peut dire que les Américains seront bien là cette année sur la croisette.
Hein. Et longtemps, on a eu un doute. La grève à Hollywood l'année dernière a retardé beaucoup de tournages, des films qui ne seront sans doute pas prêts avant 2025. Et Thierry Frémaux, le délégué du festival, avait regretté dans une interview au magazine américain Variety que la deuxième partie du film Dune ne puisse pas être montrée à Cannes avant de sortir au cinéma. Cela ne l'empêchera pas de composer le mois prochain un tapis rouge américain d'exception et très glamour. Avec, on l'a appris hier, Kevin Costner, attendu pour présenter hors compétition sa grande saga sur la conquête de l'Ouest, Horizon. Et à bientôt 80 ans, l'immense George Lucas, pour recevoir une palme d'or en hommage à une carrière qui avait un peu commencé à Cannes, puisqu'en 1971, il était venu y présenter son premier film, THX 1138, produit à l'époque avec un certain certain, Francis Ford Coppola, lui aussi attendu, on croise les doigts, on le saura jeudi pour son nouveau film Mégalopolis. La photo des retrouvailles pourrait être plutôt belle. En tout cas, la venue de George Lucas s'annonce comme l'un des temps forts du festival, d'un festival qui a toujours occupé, il l'a dit dans un communiqué, une place spéciale dans son cœur. Il y est revenu souvent, comme scénariste, comme réalisateur, comme producteur. Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée l'année dernière, mais c'était lui, l'homme qui avait révélé Harrison Ford en 73 avec American Graffiti. De beaux souvenirs en perspective et une soirée de clôture qu'on imagine déjà culte.
Merci Corinne Pellissier. Ce festival de Cannes aux accents américains, ce sera donc du 14 au 25 mai prochain.
Et merci beaucoup Céline Asselot. Vous reviendrez demain. Dans un instant, c'est le téléphone sonne. On parle de réforme de l'assurance chômage. Au téléphone sonne ce soir, on jette d'abord un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Elodie Calac, un temps plus calme demain, davantage d'éclaircies.
Oui, alors patience quand même puisqu'il reste des averses ce soir, mais elles s'estompent progressivement. Demain matin, ce sera en effet partagé entre nuages et éclaircies. Alors plus de soleil de la frontière belge vers le bassin parisien et l'Orléanais le matin, autour de la basse vallée du Rhône et sur le Languedoc-Roussillon aussi avec du vent fort. Plus de nuages en revanche sur le sud-ouest, sur le flanc est, avec un peu de neige sur le nord des Alpes et en Corse. Quelques brouillards du nord de la Nouvelle-Aquitaine vers le centre-val de Loire. Et puis quelques gouttes sur la pointe bretonne. Ces quelques gouttes l'après-midi, elles gagneront tout le nord-ouest. Des averses circuleront sur la Nouvelle-Aquitaine. Et puis encore quelques averses des Alpes du Sud à la Corse, mais de très belles éclaircies ailleurs.
Et il fera plus frais le matin.
Oui, 1 à 7 degrés le plus souvent, jusqu'à 11 en Méditerranée. L'après-midi, quelques degrés de plus qu'aujourd'hui malgré tout. 13 degrés à Aurillac, à Grenoble, 14 à Dinard, 16 degrés à Strasbourg, Caen, Tours, Limoges et Agen, 17 à Paris et à Bastia, 20 degrés à Montpellier ou à Toulon. Et cette hausse, elle va se poursuivre les prochains jours puisque le week-end s'annonce chaud et ensoleillé.
Et le Dick Calac de Météo France. Merci beaucoup.